Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Si Dieu a tant insisté pour que l'homme observe ses lois, c'est parce qu'il sait que l'homme veut vivre comme bon lui semble, sans considération pour cette loi d'amour et de liberté établie pour le bonheur de l'humanité. Le septième commandement déclare « Tu ne commettras point d'adultère ». Dans son sermon sur la montagne, le Christ magnifia la loi en lui donnant une dimension spirituelle qui s'ajoute à la lettre de la loi. Il déclara « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » L'adultère ne nuit pas seulement aux époux, mais à leurs enfants. C'est une offense contre Dieu et contre l'institution du mariage qu'il a établie et sanctifiée. L'infidélité, conséquence de désirs adultères, la convoitise sont des actes de rébellion contre la loi divine. Le Christ expliqua que l'on transgresse le septième commandement lorsqu'on convoite une autre personne que son conjoint. Que de foyers malheureux à la suite de l'adultère de l'un des conjoints ou même de chacun d'eux. Plus les années passent, plus le nombre de divorces augmente et plus d'enfants sont privés d'un contact quotidien avec leurs parents. Ils ne s'épanouissent pas dans un foyer stable et on s'étonne qu'ensuite ils se rebellent contre la famille et la société. Les relations sexuelles illicites avant le mariage, que la Bible appelle fornication, sont devenues courantes chez les jeunes et les mariages à l'essai ne se comptent plus. Tout ceci est une transgression du septième commandement. En s'adressant aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. La bestialité, l'inceste, l'homosexualité sont interdits par Dieu. La pédophilie détruit la vie de l'enfant qui en est victime. Nous avons le choix de nous soumettre au commandement. Le roi Salomon écrit « Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Je voudrais ouvrir une grande parenthèse afin que vous puissiez bien comprendre ce sujet. Nous pouvons lire dans le livre de la Genèse « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Le texte hébreu dit « Il les créa mâle et femelle. » L'homme et la femme ont donc été créés avec des différences physiques pour former un couple. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. La Bible ajoute, « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Dieu s'était entretenu avec nos premiers parents, alors qu'ils étaient nus, et ni l'un ni l'autre n'en avaient honte. » Le livre de la Genèse est un livre condensé, qui relate donc les événements essentiels. Il est certain que Dieu dut expliquer au premier couple sa loi et la bonne façon de vivre. Adam et Ève, créés à l'état d'adulte, ne possédaient aucune expérience. Sans aucun doute, Dieu leur enseigna tout ce qu'ils devaient savoir dans tous les domaines pour leur vie quotidienne, ce qu'ils pouvaient manger, comment faire du feu et cuire les aliments, comment tuer les animaux, sans oublier ce qui concernait l'institution du mariage et la sexualité, ainsi que la raison de leur existence. Le plan divin prévoit l'extension de la race humaine, et en créant Adam et Ève avec les organes reproducteurs adéquats, l'Éternel avait merveilleusement conçu le moyen pour eux et leurs descendants d'accomplir cette fonction et d'atteindre ce but. Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Nous devons comprendre qu'il n'était pas bon que l'homme reste seul plus longtemps. Le récit biblique nous dit qu'Adam engendra des fils et des filles, et que les hommes se multiplièrent sur la face de la terre. Après l'intervention de Satan et la désobéissance d'Adam et Ève, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ?» L'Éternel savait bien sûr où ils étaient et ce qui s'était passé. En provoquant leur réponse, il cherchait à souligner leur responsabilité dans le fait d'avoir commis cette faute grave. Ensuite, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Le mot hébreu pour revêti est labash, signifiant paré, orné, agrémenté, et non caché ou voilé la nudité. Il n'était pas dans l'intention de Dieu de cacher la nudité du premier couple après leur désobéissance, pas du tout. Il habilla tout simplement Adam et Ève. Toutefois, ce récit ne justifie pas le nudisme ou le naturisme public, car il s'agit d'une question de pudeur, de protection et de considération pour les autres. Dieu a créé la sexualité afin de permettre non seulement une union physique, mais aussi l'éveil d'une attirance où le cœur et l'esprit devaient avoir leur place. Dieu avait prévenu Adam que s'il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait, tandis que Satan vint lui dire qu'il ne mourrait pas. Ce mensonge est à la base de la fausse doctrine de l'immortalité de l'âme, affirmant que l'homme possède une âme immortelle, prisonnière d'un corps physique. Satan et ses démons sont des êtres spirituels. Ils n'ont pas de corps physique et n'ont donc pas la possibilité de se reproduire. Ils ne peuvent pas se matérialiser comme les anges peuvent le faire, mais eux, sans pouvoir se reproduire, puisque Jésus déclare « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » De leur côté, les démons peuvent posséder quelqu'un, comme le démontrent de nombreux passages bibliques. Si vous voulez recevoir notre étude qui traite de ce sujet, il vous suffit de la demander et elle vous sera expédiée gratuitement. Dès le commencement, Dieu a prévu pour l'être humain l'accouplement d'éléments physiques contraires, afin de permettre à nos premiers parents d'atteindre ce but, c'est-à-dire perpétuer les institutions qu'il a prévues, le mariage, le foyer et la famille. Il est destiné à susciter l'attrait et l'amour entre un homme et une femme, et les pousser à partager leur existence, leurs problèmes, leurs épreuves, leurs espérances, leurs joies, à s'épauler mutuellement pour construire ensemble un foyer heureux où s'épanouiront leurs enfants. La sexualité normale procure des joies saines et abondantes. Mais si elle est utilisée dans un but contraire à celui prévu par Dieu, elle peut ouvrir la porte à une vie sexuelle déviante et à son cortège de perversion. La sexualité est bonne, utile et épanouissante à condition d'éviter ce que Dieu interdit, les relations prénuptiales que la Bible appelle fornication, les relations extra-conjugales, homosexuelles, etc. Pourquoi l'adultère et les autres formes d'immoralité telles que décrites dans le livre du Lévitique, au chapitre 18 et 20, sont-ils un péché? Dieu n'a pas donné des ordres arbitraires, mais la transgression de la loi nous prive de joie, de paix, de sécurité et de bénédiction, et on se retrouve sous la malédiction en les transgressant. Observer le septième commandement, c'est éviter la tragédie d'une grossesse prématurée, d'une maladie vénérienne ou de tant d'autres maladies qui se répandent de plus en plus dans le monde et qui démolissent l'organisme. De nos jours, on ne sait plus très bien ce que le mot « amour » signifie. On le confond avec érotisme, convoitise, concupiscence. Les Grecs utilisaient trois mots différents pour l'amour. Le premier est « eros », pour l'amour sexuel, l'amour charnel entre mari et femme. Il est la racine du mot « érotique ». Ensuite, il y a « philia », qui signifie « amitié »,« amour fraternel » ou « familial ». Dans le contexte du mariage, il décrit le couple équilibré qui travaille ensemble, la main dans la main pour former une bonne équipe. Ensuite, le mot agapao signifiant l'amour moral ou spirituel. Il s'agit de ce que Dieu éprouve pour l'humanité. C'est cela l'amour qui vient de Dieu et qui fait partie des qualités du fruit de l'esprit. Cet amour est sans aucun intérêt personnel, il est sans égoïsme, il est parfait. Le Christ s'est servi de ces deux derniers mots lorsqu'il s'adressa à Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ?» Traduit ici d'agapao, amour moral, profond, spirituel, l'amour de Dieu. Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » De philéo, amour fraternel, amitié. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Toujours agapao, amour spirituel profond émanant de Dieu. Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Traduit encore de philéo, amitié, amour fraternel. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Mais cette fois, le Christ utilise philéo. Il s'agit de l'amitié, de l'amour fraternel. Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Pierre, qui n'a pas encore le Saint-Esprit en lui, se réfère toujours à l'amitié. Le véritable amour consiste à donner et non à prendre. Il est dépourvu de tout égoïsme. Le véritable amour veut donner, partager et ne cherche pas à obtenir. Il veut aider, servir. C'est un sentiment d'affection sincère. Ne pas commettre l'adultère comme Dieu le demande, c'est avoir ce genre de sentiment pour le conjoint, pour les enfants, pour le foyer. Nous devons aimer notre conjoint d'une manière exceptionnelle. Lorsque Paul écrit « Marie, aimez vos femmes », ce verbe « aimer » vient d'agapao, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute « C'est ainsi que les maris doivent aimer, agapao, leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, agapao, comme lui-même et que la femme respecte son mari. » L'amour conjugal, tel que Dieu le conçoit, est un mélange d'amour charnel, d'amour spirituel et d'amitié. C'est un amour profond, qui ne veut faire aucun tort, qui veut donner, qui fait en sorte que la vie vaut la peine d'être vécue au sein du foyer, non pas nécessairement avec beaucoup de richesses matérielles, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de sollicitude. C'est ce que Salomon nous fait comprendre lorsqu'il écrit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » C'est très facile d'aimer sa petite personne. Il est moins facile d'aimer les autres comme soi-même. Cependant, le septième commandement qui ordonne « Tu ne commettras point l'adultère » est un commandement d'amour. S'il était observé selon la lettre qui demande de ne pas commettre un adultère physique, mais s'il était observé aussi selon l'esprit qui nous ordonne de ne pas convoiter une femme ou un homme, tant de choses changeraient et nous verrions alors plus de foyers heureux, des conjoints désireux de donner et non de prendre, des enfants jouissant d'un climat caressant auprès de leurs parents et une vie de famille telle qu'elle sera lorsque le Christ reviendra établir son gouvernement sur cette terre. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.